recherche secret en matière de guerre bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
L'ange trace sur le front de Dante sept paix qui seront effacées après chacune des sept terrasses du purgatoire, qui correspondent aux sept péchés capitaux.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Le purgatoire, disons-le tout net, est en mauvaise forme. Sur la toile, les sites du catholicisme traditionnaliste multiplient leurs reproches à ce sujet envers le pape François. Il l'accuse de le laisser doucement s'effacer, de ne le mentionner quasiment jamais, tout en semblant simultanément réticent envers la pratique des indulgences dont il a, comme souverain pontife, la maîtrise et qui permettrait d'abréger le séjour des âmes dans cet état intermédiaire entre enfer et paradis. On ne peut qu'être intrigué par cette quasi-disparition qui aurait beaucoup surpris nos ancêtres, pour qui le purgatoire figurait en bonne place dans la catéchèse et plus largement dans la vulgate de la culture chrétienne. Une manière féconde d'interpréter cela peut être de considérer la chose dans la longue durée à partir d'une constatation primordiale: la grande prospérité du purgatoire, si je puis dire, ne date que des débuts du second millénaire après le Christ. Il n'a pas son fondement dans les Écritures saintes et il a connu de siècle en siècle des fortunes fort inégales, parfois promues comme essentielles et parfois refoulées, loin du cœur de la foi, éprouvées et répandues. Voilà bien, m'a-t-il semblé, un beau sujet de curiosité. Une curiosité que je vais demander à Guillaume Cuchet d'assouvir ce matin. Il est professeur d'histoire contemporaine à l'université de Paris-Est-Créteil, spécialiste de l'histoire et de l'anthropologie religieuse européenne des 19e et 20e siècles. Mais fort au fait, des périodes plus anciennes vers lesquelles, bien sûr, il va falloir que nous dirigions d'abord nos investigations. Et d'abord cet extrait du traité du purgatoire de Sainte Catherine de Gênes, qui a vécu à la fin du XVe siècle.
Aucune peine n'est comparable à celle des âmes du purgatoire, excepté celle des saints dans le ciel. Et cette paix s'accroît sans cesse par l'écoulement de Dieu dans ces âmes, à mesure que les empêchements disparaissent. La rouille du péché est l'obstacle et le feu la consume sans trêve, de sorte que l'âme, en cet état, s'ouvre aussi continuellement pour recevoir la divine communication. De même qu'un miroir recouvert ne peut jamais refléter le soleil, non par aucun défaut de cet astre, mais simplement à cause de la résistance du couvercle, de sorte que si le couvercle était graduellement déplacé, la surface du miroir serait peu à peu accessible aux rayons du soleil, ainsi en est-il de la rouille qui recouvre l'âme. En purgatoire, les flammes la consument constamment, et quand cette rouille disparaît, l'âme reflète de plus en plus parfaitement le vrai soleil qui est Dieu. Son bonheur augmente à mesure que cette rouille diminue, et l'âme étant alors exposée au divin rayon, en est éclairée dans la mesure où elle est purifiée, et cela jusqu'à ce que la purification soit parfaite. On ne peut pas dire que leur peine soit une souffrance. D'autre part, il est également vrai de dire qu'elles endurent des tourments qu'aucune langue ne peut décrire, ni aucune intelligence comprendre, à moins qu'ils ne soient révélés par une grâce spéciale, comme celle que Dieu a daigné me faire, mais que je suis incapable d'expliquer. Cette vision n'est jamais sortie de ma mémoire.
Guillaume Cuchet, bonjour.
Bonjour.
C'était donc un extrait du traité du purgatoire de Sainte Catherine de Gênes, une lecture de Leïli Anvar, un extrait des Racines du ciel, une émission de Frédéric Lenoir sur France Culture le 1er février 2015, vous y participiez d'ailleurs.
Oui.
Dans son livre majeur qui s'appelle « La naissance du purgatoire » sur lequel nous allons évidemment avoir à faire fond, Jacques Le Goff a choisi deux épigraphes. Première épigraphe, Sainte Catherine de Gênes. « Le purgatoire, quelle grande chose !» Point d'exclamation. Et seconde épigraphe, Chateaubriand, « Le purgatoire surpasse en poésie le ciel et l'enfer en ce qu'il représente un avenir qui manque aux deux premiers. » Fin de citation. Alors, nous sommes là au cœur de notre sujet, Guillaume Cuchet.
Oui, c'est un des très grands textes de la tradition mystique du purgatoire, et même de la tradition tout court, qui était très admirée, y compris par des théologiens contemporains comme Henri de Lubac, et qui illustre l'une des conceptions concurrentes du purgatoire, cette conception un peu mystique d'âme qui irait volontairement au purgatoire pour se purifier et n'en sortir que le jour où elle serait en état de voir Dieu face à face. Alors c'est un texte d'une très grande densité mystique.
Le cardinal de Lubac, vous y faisiez allusion, appréciait ce texte et y attachait de l'importance.
Le cardinal de Lubac disait que celui qui n'entendait pas le traité du purgatoire de Sainte Catherine de Gênes à l'intérieur de son âme ne s'en était jamais servi. C'était l'expression qu'il employait. Et c'est vrai qu'on peut y entrer un peu en pensant que c'est un peu pittoresque. Et c'est vraiment un texte très saisissant, d'une très grande beauté.
Je citais aussi Chateaubriand après Le Goff, l'idée que le purgatoire représente un avenir qui manque aux deux premiers. C'est important dans ce texte de Sainte Catherine, l'idée de la rouille et de la couverture qui peu à peu disparaît. Il y a un mouvement dans le purgatoire par nature, alors que l'enfer et le paradis peuvent apparaître comme sans fin.
Oui, il y a un temps au purgatoire, un temps très curieux, puisque c'est un temps dans l'éternité, donc c'est quand même, il y a une forme de succession à l'intérieur même de l'éternité. Ça a fait beaucoup réfléchir les théologiens du Moyen-Âge et de l'époque moderne pour essayer de concevoir ce temps-là. Et effectivement, il y a un avenir en ce sens qu'il n'y a qu'une porte de sortie, c'est le paradis, donc ça se termine forcément bien, mais avant d'en arriver là, il faut en passer quand même par des peines et des souffrances terribles.
Il n'a jamais été question que du purgatoire on pu tomber en enfer.
Non. Il y a... Alors avant que toute cette topographie ne se fixe véritablement autour du XIIe, XIIIe siècle, il y a pu y avoir quelques hésitations, mais depuis le XIIe, XIIIe siècle, le sens giratoire est fixé et il n'y a pas d'enfer possible derrière le purgatoire.
Même si le purgatoire apparaît dans sa majesté que comme un nom et non pas comme l'adjectif, en ce début du millénaire qui vient de s'achever, on doit, comme l'a fait d'ailleurs Le Goff dans le livre que j'évoquais, aller s'enquérir plus loin en arrière, des origines possibles. Et nous allons voir que les protestants expliquent toujours que le purgatoire n'est pas scripturaire, n'est pas dans les Écritures. Et néanmoins, les pères de l'Église ont commencé de dessiner ce chemin.
Oui, à vrai dire, le purgatoire, c'est une sorte de trou dans la structure originelle du christianisme. C'est une expression que j'emprunte à celui qui était peut-être le plus grand théologien catholique du XIXe siècle, John Henry Newman, qui réfléchissait un peu sur l'origine problématique du purgatoire, dans la mesure où il n'en est pas question en tant que tel dans les Écritures, ni du terme lui-même, ni même en un sens de la conception de l'au-delà dont il est porteur, et donc il a fallu l'inventer. Alors, ou plus exactement l'extraire des matériaux primitifs de l'écriture au terme d'un processus de développement qui a fait l'objet d'appréciations diverses de la part des spécialistes de l'histoire ancienne et médiévale. Et en gros, si vous voulez, il y a deux écoles. Il y a l'école de ceux qui considèrent que c'est saint Augustin, en gros, qui a inventé le purgatoire au tournant du 4e, 5e siècle. Et puis, il y a ceux derrière Le Goff, principalement, Le Goff et les Le Goffiens, qui, eux, sont plutôt sur le 12e siècle, en pensant que, certes, il y avait des matériaux antérieurs et originels. On prie pour les morts depuis le début du christianisme. On imagine bien qu'il y a des peines expiatrices dans l'au-delà. Mais on n'a pas encore dégagé le concept du purgatoire, et ça n'est, selon Le Goff, qu'au XIIe siècle, qu'au terme d'une révolution théologique, le concept est dégagé et formalisé par les spécialistes.
Ceux qui sont de l'autre école insistent sur le rôle des pères de l'Église de l'époque de la patristique, et même avant saint Augustin, le rôle de Tertullien.
Voilà. Et en fait, je crois que quand on arrive de l'extérieur du dossier, on doit pouvoir les mettre d'accord en considérant que c'est un processus graduel, un processus à étapes, et que il y a des étapes plus ou moins importantes. C'est sûr que Saint-Augustin, au fond, tout y est déjà presque avec Saint-Augustin. Mais le terme lui-même, effectivement, le purgatoire, purgatorium en latin, lui n'apparaît que vers 1170, semble-t-il. Et c'est pas tout à fait anodin, c'est pas un détail lexical, parce que ça correspond aussi au moment où le purgatoire devient un lieu. C'est la naissance du purgatoire comme lieu, si vous voulez.
Plus que comme état.
plus que comme État, voilà. Alors qu'il était plutôt conçu comme un État jusqu'alors. Désormais, l'État se localise et on voit se mettre en place toute une topographie de l'au-delà qui ne concerne pas simplement le purgatoire, mais tous les autres lieux de l'au-delà catholique. Et c'est peut-être ça la vraie nouveauté du XIIe siècle, c'est la naissance d'une topographie de l'au-delà dont, à l'intérieur de laquelle le purgatoire va prendre place.
Ce qui est intérieur, me semble-t-il, néanmoins, c'est cette sorte de ligne de crête assez subtile qui consiste à prêcher deux visages de Dieu, celui qui peut tout pardonner et celui qui, passionné de justice, révélera un jour à chacun la vérité de sa vie.
Oui, alors il y a effectivement, enfin c'est une sorte de compromis finalement entre les deux, mais je le répète, de compromis qui se termine bien parce que la porte de sortie, c'est le paradis.
Avant d'être un lieu, le purgatoire a été conçu comme un feu qui est difficile à localiser. Cette présence du feu, qu'on va trouver aussi dans la Divine Comédie de Dante à propos du purgatoire, cette présence du feu est d'importance, non?
Oui, alors ça, l'image du feu, elle est biblique, elle est présente chez saint Paul, notamment, de feu purificateur. Alors, à partir du feu, on peut dériver finalement à deux interprétations. Ceux pour qui le feu est surtout pénal, en quelque sorte, et en un sens, le feu brûle au purgatoire comme il brûle en enfer, et ceux pour qui correspond plutôt à une forme de purification, ce qui serait plutôt l'avis probablement de sainte Catherine de Gênes dans le texte qu'on a lu tout à l'heure.
Punitif ou purificateur, c'est une ambivalence qui va perdurer.
Voilà, et les deux en même temps finalement.
Néanmoins, les catholiques à partir du XIIe siècle développent le principe du purgatoire, s'efforcent d'aller trouver dans les textes des passages qui pourraient les justifier. Je pense en particulier à cette citation évoquant Judas Maccabée qui ordonnerait que des combattants juifs qui avaient été tués, qui ordonnerait qu'on prie pour eux.
Oui, il y a le rétrospectivement, les théologiens catholiques, et encore, je dirais, au milieu du XXe siècle, n'avaient pas de peine à énoncer toute une série de textes scripturaires de l'Ancien et du Nouveau Testament qui leur paraissaient annoncer le purgatoire ou dans lequel le purgatoire était préformé. Donc, il y a des théologiens catholiques qui considèrent que c'est par développement d'intuitions spirituelles enveloppées, en quelque sorte, dans ces textes primitifs, qu'au terme d'un processus normal dans l'Église, le concept a fini par émerger. Mais en face, évidemment, les protestants, eux, considéraient plutôt, selon la formule célèbre de Calvin, que le purgatoire avait été inventé sans la parole de Dieu, ce qui, évidemment, pour un protestant, est un peu problématique.
D'autant plus que le deuxième livre des Maccabées dans l'Ancien Testament n'est pas considéré par les protestants comme canonique.
Oui, ce qui n'aidait pas effectivement dans le dossier.
Alors portons-nous, Guillaume Cuchet, vers ce début du second millénaire, dans cette période très très brillante qui a précédé le sombre XIVe siècle. Et pour le faire, je vous propose un extrait de La vie de Saint Patrick qui a été publié vers 1200, lu ici par Didier Conti dans Les chemins de la connaissance de Guillaume Mallory sur France Culture, bien sûr, le 23 juin 1980. Vous allez voir que la topographie du purgatoire paraît encore, à nos yeux, quelque peu incertaine.
Quand Saint Patrice, après avoir tracé un cercle avec son bâton, vit la terre s'ouvrir et apparaître un puits très grand et très profond, il lui fut révélé que c'était là un lieu de purgatoire dans lequel quiconque désirerait descendre n'aurait plus d'autre pénitence et ne subirait pas d'autre purgatoire. Beaucoup néanmoins n'en reviendraient pas, et ceux qui en reviendraient devraient s'y arrêter d'un matin jusqu'au matin suivant. Ce puits ouvrait donc aussi sur un enfer, puisqu'un grand nombre d'êtres y disparaissaient à tout jamais. C'est ce que confirma plus tard le noble descendu dans ce purgatoire. Entre deux cruelles épreuves, il observa un immense puits, d'où s'échappait une affreuse fumée et une puanteur insupportable. Il en sortait comme des étincelles des hommes semblables à du fer incandescent. Mais les démons les y repoussaient. Les démons lui dirent « Ce lieu que tu aperçois est l'enfer, où réside notre Seigneur Belzébuth. Cela étant, nous te jetterons dans ce puits-ci si tu ne te soumets pas à nous. Mais quand tu y auras été jeté, tu ne conserveras aucun espoir de t'en échapper. »
On a peut-être besoin, Guillaume Cuchet, d'un peu d'explications sur cette complexité topographique.
C'est une des sources un peu de la théologie purgatoire, c'est tous ces voyages dans l'au-delà qui sont très anciens, il y a un genre littéraire là très ancien et qui joue un rôle important dans la naissance du purgatoire parce que faute d'enracinement dans l'écriture, il a bien fallu qu'on récupère des informations sur la topographie de ce lieu et ces visions de l'au-delà ont finalement fourni un peu des matériaux pour cela. Et effectivement, en écoutant ce texte, on voit bien que ce purgatoire de Saint-Patrick, ce trou débouche aussi bien sur l'enfer que sur le purgatoire, et on sent que même si les médiévistes nous expliquent que le purgatoire est né à la fin du XIIe siècle, tout n'est pas encore tout à fait clair sur le plan des représentations. Mais il y a une sorte de deuxième temps, il y a la naissance théologique, et puis ensuite il va y avoir tout un système de représentations, le purgatoire comme lieu, le purgatoire comme temporalité spécifique, qui va se mettre en place, et on sent qu'à ce stade, plusieurs scénarios sont encore possibles dans ce texte-là.
Avec le purgatoire tantôt comme punition d'abord et tantôt comme espérance surtout.
Oui, voilà, avec ces deux aspects qu'au fond qui a peut-être fait l'attractivité du purgatoire dans ce contexte, c'est qu'on sortait d'un au-delà binaire, enfer paradis, et que tous ceux qui se sentaient ni destinés à l'un ni destinés à l'autre spontanément se reconnaissaient davantage en ce lieu intermédiaire où Dieu exerce à la fois, je dirais, sa justice puisqu'on a à rendre des comptes de son existence et à se purifier, et où en même temps il peut exercer sa miséricorde. Au fond, les deux attributs divins principaux trouvent à se concilier dans ce troisième lieu de l'au-delà, et s'il est reçu via toute une pastorale, c'est probablement qu'il correspondait à une forme d'attente et peut-être à une absence relative de plausibilité de cet au-delà binaire qui paraissait simplifier excessivement le tableau finalement.
Et dans quel milieu sociologique se développe ce purgatoire qui surgit en fait en ce début du XIIe siècle?
Donc il naît dans des milieux savants de théologiens à Paris, à plus tard un peu à Avignon. Bon, alors traditionnellement, Jacques Le Goff avait montré que c'était notamment chez un théologien qui s'appelle Pierre Le Chantre ou Pierre Le Mangeur, qui est un théologien de la fin du XIIe siècle, que ce purgatoire comme lieu avait véritablement émergé.
À Paris, puisque c'est le maître de l'école Notre-Dame de Paris.
À Paris. Donc on peut dire en un sens qu'il est né à Paris, le purgatoire, et qu'en revanche la dévotion, la prière pour les âmes du purgatoire en tant que telle, est plutôt née à Avignon, au début du XIVe siècle. Mais enfin, ça se passe entre Paris et Avignon.
Et c'est là que commence de s'installer cette question compliquée et un peu circulaire des prières pour les morts de la part des vivants et d'appui supposé des morts au profit des vivants souffrants.
Voilà, donc le moteur de la dévotion, c'est la possibilité pour les vivants de prier pour les morts, et ce faisant, d'accélérer, à la fois de diminuer leur souffrance, et d'accélérer ou d'abréger leur temps de détention au purgatoire. Donc les fidèles sont incités à faire célébrer des messes pour les morts, à prier pour eux, à faire des bonnes œuvres, bientôt aussi à gagner des indulgences et à les leur appliquer. Donc il y a tout un système dévotionnel qui se met en place, et qui est aussi une façon pour les vivants de continuer à avoir des relations avec leur mort, et donc d'une certaine façon d'avoir une étape dans le travail du deuil. Et on comprend bien dans ce contexte comment ça a pu susciter de l'intérêt. Et l'autre question que vous souleviez est un petit peu différente, qui est la question de savoir qu'est-ce qu'on a en retour, indépendamment du fait qu'on aide ce qu'on aime dans l'au-delà. Ça, c'est plus un phénomène plus tardif, où on va voir, notamment au XIXe siècle, s'imposer l'idée que non seulement on peut les aider, mais qu'en retour, eux vous aident sous forme de grâce spirituelle ou matériel, et à ce moment-là, la boucle en quelque sorte,
c'est moins
on les
clair.
Aide et ils nous aident.
C'est moins clair au 12e ou 13e siècle.
Oui, c'est moins clair parce qu'on a tendance à penser que les âmes du purgatoire n'ont pas autre chose à faire, ou ne peuvent pas faire autre chose que de se purifier, elles sont toutes absorbées dans le processus de leur purification. Et en revanche, on imagine parfois qu'une fois sorties du purgatoire, une fois arrivées au paradis, elles ont mémoire de tout ce qu'on a fait pour elles, et qu'à ce moment-là, elles peuvent vous payer de tous les efforts que vous avez fait en leur faveur. Mais il y a un délai. Comme on ne sait jamais combien de temps ça dure, on ne sait pas très bien quand on sera payé. Mais enfin, c'était plutôt ça, si vous voulez, ce qu'on imaginait. Il y avait une gratitude des âmes du purgatoire, mais une fois qu'elles étaient devenues des élus du paradis. Alors qu'au XIXe siècle, on va dire de plus en plus qu'au fond, dès lors même qu'elles sont au purgatoire, elles peuvent aider les vivants.
Il y a un triomphe poétique du purgatoire, c'est la Divine Comédie de Dante, qui est achevée en 1319. Et où le purgatoire est encore un lieu, puisqu'il est situé sur la terre, sous le ciel étoilé. Il n'est pas souterrain.
Oui, alors que il va très rapidement passer sous terre. Hein. La représentation la plus célèbre du purgatoire au Moyen Âge, qui est le couronnement de la Vierge d'Enguerrand Carton, qui se trouve à Villeneuve-les-Avignon et qui date du milieu du XVe siècle. Là, vous avez un purgatoire souterrain qui ressemble à un enfer. Simplement, c'est un enfer dont on sort et on y voit des anges psychopompes qui viennent tirer les armes, qui font des allers-retours. Et là, il est sous terre, ce qui est d'ailleurs un peu problématique parce que ça suppose que les défunts passent sous terre et repassent par la terre pour aller au ciel. Ça, c'est une des difficultés de l'iconographie du purgatoire, c'est qu'en mettant le purgatoire sous terre, on oblige les défunts à repasser une deuxième fois sur terre pour aller au paradis. On le voit très bien dans la représentation d'Enguerrand Carton.
Alors que, peut-être pour cette raison, le grand Dante imagine plutôt une montagne, décrit une montagne dont la partie basse est une antichambre, et avec ensuite sept cercles ou corniches qui sont étagées, dont la circonférence diminue en allant vers le sommet, les âmes y purgeant les sept péchés capitaux.
Voilà, une sorte de pain de sucre, finalement.
Et au sommet de la montagne, Virgile, qui l'accompagne, et Dante entrent dans le paradis terrestre. Mais je vous sens impatient d'avancer dans le temps, car cette histoire est cyclique. Il y a des moments brillants pour le purgatoire et des moments de relatif effacement. Et on va le voir ressurgir après les difficultés liées aux guerres de religion, au moment du baroque, parce qu'en effet, les guerres de religion, c'est vraiment un des points d'achoppement de l'opposition entre, vous le citiez tout à l'heure, Luther et Calvin d'un côté, et l'Église de la contre-réforme.
Oui, il va y avoir un second grand moment après la fin du Moyen-Âge, la religion flamboyante de la fin du Moyen-Âge. Ça va être le XVIe et XVIIe siècle, un purgatoire baroque qui naît en partie effectivement de la contestation protestante, puisque la réforme démarre d'une certaine façon avec ça. Hein, dans les 95 thèses de Luther, il y en a au moins une vingtaine qui concernent les indulgences et le purgatoire. Donc c'est vraiment la controverse génératrice d'une certaine façon de la séparation et de la réforme. Et du coup, les catholiques vont à la fois réaffirmer les fondements du purgatoire au Concile de Trente en 1563, dans une définition très sobre d'ailleurs, en se contentant de dire que le purgatoire existe et que les vivants peuvent prier pour les morts, mais en se mettant à distance de tous les excès de pensée, de pratique et d'imagination auxquels ce culte avait pu donner à la fin du Moyen-Âge.
Vous voulez le décret du Concile de Trente, 1563,
oui,
je vous le lis.
Allez-y.
Je vous lis. L'Église catholique, instruite par le Saint-Esprit, ayant toujours enseigné, ça on peut le discuter, ayant toujours enseigné, suivant les saintes écritures et la doctrine ancienne des pères, dans les cinq conciles précédents et depuis peu encore dans ce concile général, qu'il y a un purgatoire, toujours enseigné, et que les âmes qui y sont détenues sont soulagées par les suffrages des fidèles, et particulièrement par le sacrifice de l'autel, si digne d'être agréé de Dieu, le Saint Concile ordonne aux évêques qu'ils aient un soin particulier, que la foi et la créance des fidèles touchant le purgatoire soient conformes à la saine doctrine qui nous a été donnée par les saints pères et par les saints conciles, et qu'elle soit toujours prêchée et enseignée de la sorte. Sobre, en même temps, très clair et très affirmatif.
Oui, très ferme. Et du coup, le purgatoire, comme un certain nombre de dogmes et de dévotions catholiques récusées par les protestants, va acquérir une dimension un peu identitaire pour les catholiques de l'époque moderne. Et notamment, on le voit bien d'ailleurs dans les régions de contact entre catholiques et protestants, où ce type de dévotion distinctive s'avive. Et les catholiques d'époque moderne, quasiment jusqu'au XXe siècle, vont apprendre leur catéchisme un peu contre les protestants, et inversement, d'ailleurs, les protestants contre les catholiques. Et du coup, le purgatoire acquiert une nouvelle centralité qui, on peut estimer, avec une chronologie un peu décalée, quand on regarde ça à l'échelle européenne, c'est très puissant au XVIe siècle, dans le sud de l'Europe. Et puis ensuite, ça va se déplacer au XVIIe, XVIIIe siècle en Europe centrale et orientale. Mais il y a un deuxième sommet, après le sommet médiéval de la dévotion au purgatoire, qui est atteint au XVIIe siècle, probablement.
Il faut peut-être s'arrêter auparavant un instant sur cette grande affaire des indulgences que vous évoquiez il y a un instant, qui a été en effet un sujet d'absolue discorde entre les protestants et les catholiques. Les indulgences que certains, aujourd'hui, du côté du traditionalisme, regrettent de voir s'effacer.
Oui, alors les indulgences, d'ailleurs, existent toujours dans la doctrine catholique. Il avait été question, d'ailleurs, un temps de les supprimer au Concile Vatican II, et puis on avait regardé le dossier de près, et on s'était aperçu qu'elles tenaient à trop de choses, elles étaient trop architectoniques dans le système catholique pour qu'on puisse faire une croix dessus sans désarticuler beaucoup de choses. Donc, finalement, elles ont été maintenues. Donc, l'Église catholique continue de croire aux indulgences, elle continue même, d'ailleurs, de distinguer des indulgences plénières, qui sont censées effacer toute votre dette de peine d'un coup et vous permettre d'aller directement au paradis.
Celle que le pape a accordée en 1300, par exemple, au moment d'un jubilé à tous ceux qui étaient venus jusqu'à Rome, ce qui était plus difficile qu'aujourd'hui en avion.
Voilà, les jubilés sont normalement l'occasion d'obtenir une indulgence plénière, mais pas seulement, et c'était encore le cas d'ailleurs, tous les jubilés contemporains continuent d'être accompagnés d'une indulgence plénière. Donc l'indulgence, ça a vraiment été une des, avec la messe pour les morts en quelque sorte, la principale pratique de piété porteuse de la dévotion purgatoire.
Alors vous disiez qu'il y a un rebond dans cette histoire assez cyclique, une réapparition du purgatoire comme important à l'époque baroque et aussi jusque pratiquement au XVIIIe siècle.
Oui, il y a à la fois effectivement ce souci de réagir contre les négations protestantes et puis il y a un très grand nombre de confréries de piété consacrées au purgatoire qui sont créées à cette époque-là, qui sont consommatrices d'indulgence, promotrices de la piété. Donc c'est un aspect important de la vie de foi de cette époque. On en retrouve aussi l'écho dans les testaments qui ont été l'une des grandes sources des historiens du sujet pour la période moderne notamment. On pense notamment au travail de Michel Vevel. Et ces testaments des modernes sont généralement le lieu où on demande des messes, parfois en très grand nombre, où un vivant qui s'apprête à mourir anticipe un peu sur la sortie et il y a des demandes de messes absolument considérables. Et il ne faut pas négliger d'ailleurs l'importance économique de ces suffrages et de ces messes pour les morts qui jouent un rôle très important dans les finances de l'Église médiévale et moderne. C'est un peu moins vrai au XIXe siècle, mais ça l'est toujours.
Elle se compte par centaines de milliers.
Oui, c'est des flux considérables.
Je vois qu'actuellement, pour une messe, l'offrande s'élève à 17 euros. Pour une neuvaine, c'est-à-dire la célébration de 9 messes consécutives en 9 jours, il est proposé une offrande de 170 euros. Et que pour un trentin, dit grégorien, 30 messes consécutives sur 30 jours, l'offrande est de 595 euros.
Oui, il faut dire que le trentin grégorien, c'est l'efficacité garantie. C'est-à-dire que c'est censé, on célèbre 30 messes sans interruption et à la 30e, il y a un peu un imaginaire pyrotechnique derrière, mais à la 30e, l'âme est censée sortir presque de façon assurée du purgatoire pour aller au paradis. Alors ces honoraires de messe, ils sont fixés, je pense, à l'échelle diocésaine. Ils sont variables, à mon avis, d'un diocèse à l'autre. Mais les flux, évidemment, contemporains n'ont plus rien à voir avec les flux de l'époque moderne.
Comment explique-t-on la crise du purgatoire à la fin du XVIIIe siècle?
Alors c'est un peu compliqué. Alors cette crise, elle avait été diagnostiquée en partie en étudiant les testaments, en mettant en série les testaments, et on s'était aperçu que la demande de messe pour les morts avait tendance à décliner à partir des années 1750 et que le purgatoire allait connaître une nouvelle éclipse dans son histoire. Il y avait eu à l'époque une petite controverse entre deux spécialistes de la question. C'était d'un côté Michel Vevel qui avait daté le phénomène et qui avait tendance à mettre ça sur le compte d'un phénomène de déchristianisation général dans les élites de cette société des Lumières. Et en face, vous aviez à l'époque Philippe Ariès qui avait enregistré le même mouvement, mais qui l'interprétait un peu différemment en considérant que si la demande de messe était moins courante dans les testaments, c'était en partie parce que les moribonds faisaient davantage confiance aux membres de leur famille. Et le testament, fixer la demande de messe par testament, c'est obliger d'une certaine façon ses héritiers à faire célébrer ses messes. Et Ariès avait tendance à penser que ça signifiait pas simplement un déclin de la croyance au purgatoire, mais plutôt une plus grande confiance familiale, de sorte que on ne confiait plus ou moins au testament le soin de faire célébrer ses messes.
Peut-être peut-on rattacher ce relatif déclin et provisoire à l'évolution des sensibilités par rapport à la justice pénale, par exemple, les Beccaria et les autres, l'idée d'un dieu qui soit un dieu essentiellement punissant commence à heurter les sensibilités à partir de 1760 des Lumières.
Oui, peut-être, même si Beccaria, justement, en un sens, ça peut plaider pour le purgatoire. Parce qu'au fond, le purgatoire, c'est les peines proportionnées. Hein, c'est les peines graduées et proportionnées. Et des peines pédagogiques qui visent à vous faire entrer au paradis. Et les hommes et les femmes du 19e siècle qui s'intéresseront au purgatoire seront au contraire très sensibles à la modernité de la conception de la justice portée par le purgatoire, la différence de l'enfer. Beccaria, finalement, à partir du moment où ces conceptions de la justice moderne vont entrer dans les codes au 19e siècle, je pense par exemple à la grande loi de 1832 en France qui consacre la notion de circonstances atténuantes, ça ne me paraît pas tout à fait un hasard que les circonstances atténuantes entrent dans la législation l'inflation sous la monarchie de Juillet, en 1832, 10 ou 15 ans avant que le purgatoire ne redémarre. Je crois qu'il y a vraiment... le purgatoire, c'est le lieu des circonstances atténuantes.
Alors qu'on est 7 ans après la fameuse loi sur le sacrilège de 1825, qui au contraire marquait une forme d'absolu, puisqu'on coupait la main de ceux qui auraient, avant de les exécuter, ceux qui auraient violé les hosties consacrées. Ça, oui. C'était le tout de l'enfer.
Voilà, mais les missions de la Restauration sont très dominées par l'enfer, par une prédication très terroriste, ce que Delumeau aurait appelé une pastorale de la peur, qui est encore tout à fait d'actualité dans les années 1820. Mais après 1830-1840, le catholicisme prend un tournant et va faire évoluer très sensiblement sa pastorale des fins dernières, et précisément l'enfer va commencer à décliner, à passer au second plan, et le purgatoire récupérer toute une partie de l'espace dégagé.
Alors comment expliquez-vous, Guillaume Cuchet, comment expliquez-vous ce nouvel essor au XIXe siècle? Par quelle force, par quelle concomitance éventuelle entre ce mouvement et d'autres mouvements qui agitent la période?
Oui, alors je pense que le premier point, c'est ça, c'est que c'est ce malaise spirituel induit par l'enfer, le dogme de l'enfer, qui fait l'objet de critiques nombreuses de la part des ennemis de l'Église, mais qui suscite aussi un malaise important dans l'Église. Et du coup, à partir du moment où l'Église, dans les années 1840, commence à mettre un sérieux bémol sur sa prédication de l'enfer, comme Dieu ne peut pas renoncer à sa justice, le purgatoire, au fond, récupère en partie ce que l'enfer perd. Et ça va de pair, d'ailleurs, avec une conviction nouvelle parmi les catholiques du XIXe siècle, c'est que le nombre des élus est très important. Et que, alors que jusque-là, jusqu'au XVIIIe siècle inclus, on imaginait que seule une minorité des hommes seraient sauvés. À partir des années 1840-1850, il y a un texte célèbre du grand prédicateur dominicain Lacordaire là-dessus, en 1850, qui finit par expliquer qu'on a mal compris l'Écriture jusqu'alors. Il y a une phrase terrible dans le Nouveau Testament qui dit « il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus ». Et de ça, on avait déduit que ça se terminait mal pour le grand nombre dans l'au-delà. Et Lacordaire explique qu'on n'a rien compris, qu'en réalité, c'est un peu subtil, mais qu'il y a un grand nombre d'élus. Alors, si on veut sauver tout le monde, et comme tout le monde n'est pas parfait, on est obligé de redonner une certaine actualité au purgatoire. Donc il y a eu cette dimension, ce problème doctrinal au fond, déclin de l'enfer et renouveau du purgatoire.
Certains prêtres ne s'en inquiètent pas moins du fait que l'enfer serait progressivement négligé. Je vois cette citation que vous donnez dans un de vos ouvrages. Guillaume Cuchet, l'abbé Louvet en 1880, il explique qu'on ne sait jamais garder la mesure en France. On a vu presque sans transition succéder au dieu étroit et dur du jansénisme la figure d'un dieu bon enfant avec qui il n'y a pas à se gêner. Comme ce fils qui, à force de se familiariser avec ses parents, on arrive à ne plus le respecter ni les craindre. Et le bon abbé Louvet continue de la sorte. La même sensiblerie qui nous fait rayer la peine de mort de nos codes nous forge, je cite, un christianisme fin de siècle dans lequel l'enfer n'existe plus que pour les pires scélérats, et qui a d'ailleurs, comme le bagne, ses jours de relâche. Quant au purgatoire, ce n'est plus qu'une salle d'attente plus ou moins confortable dans laquelle les âmes s'arrêtent quelques instants avant de prendre l'express pour le ciel. Fin de citation.
Oui, alors, ben, l'abbé Louvet, dans son contexte, dans ces années 1880, était un réactionnaire, c'est-à-dire il était sensible à l'ancien régime théologique, attaché à l'ancien régime théologique, et il constatait l'évolution spectaculaire qui venait de se produire. Il a constaté d'autant plus que il avait été missionnaire, et les missionnaires retardent souvent d'une théologie, parce qu'ils sont dans des contextes culturels très différents, et du coup, cette révolution spirituelle qui avait eu lieu en métropole, il la découvre un peu en rentrant, et il en est un peu étonné.
Il écrirait aujourd'hui sur des sites traditionnalistes, probablement.
Voilà, probablement.
Alors, il se multiplie dans ce 19e siècle, d'une part les œuvres qui sont consacrées à l'au-delà, et d'autre part les écrits qui se répandent, souvent en direction des classes les plus pauvres, pour expliquer l'importance du purgatoire. Vous avez beaucoup travaillé sur tous ces documents. C'est aussi le moment, d'ailleurs, où apparaît l'expression de l'au-delà, ce qui irrite beaucoup le clergé.
Oui, l'au-delà, ça sent l'agnosticisme. C'est-à-dire que l'au-delà, on continue de supposer qu'il y a quelque chose après la mort, mais on ne saurait plus dire quoi exactement. Et le clergé, qui est toujours très attentif aux innovations lexicales, sent qu'avec ce terme, il y a toute une conception de l'au-delà qui ne lui va pas. Le clergé sait ce qu'il y a derrière. Et du coup, là, il y a effectivement une petite tension. Mais il y avait aussi un point important qui est le fait qu'au fond, le clergé du 19e siècle, au milieu du 19e siècle en particulier, constate que dans les régions déchristianisées ou dans les milieux déchristianisés, ce qui marche le mieux en termes religieux, c'est la religion des morts. Les gens restent très attachés à la religion des morts. Alors qu'ils ont tendance à décrocher un peu de tout le reste, on les fait revenir à la messe, à la fois pour l'enterrement des leurs, évidemment, mais aussi de leurs amis. Et puis, ils sont très attachés, par exemple, à la fête de la Toussaint, qui devient la fête la plus fréquentée du calendrier liturgique
au
XIXe siècle, ce qui n'était pas le cas sous l'Ancien Régime. C'est vraiment la religion des morts du XIXe siècle qui fait la popularité de la Toussaint. Et alors le clergé se dit de façon un peu logique que ça peut être un moyen, cette pastorale des morts peut être un moyen de faire revenir les vivants dans le giron de l'Église. C'est-à-dire qu'il faut aller les chercher là où ils sont, dans ce qui les touche le plus, dans la religion. Et il y a un effort pastoral délibéré qui consiste à dire aux contemporains, mais vous savez, nous on a, si je puis dire, en stock un moyen de communiquer avec les morts, qui est un moyen parfaitement orthodoxe, c'est la prière pour les morts. Et donc la mise en avant du purgatoire, le retour du purgatoire, est aussi conçu pour essayer de s'adapter à cette société en voie de déchristianisation partielle du XIXe siècle.
Oui, à propos de cette évolution significative du culte des morts, Guillaume Cuchet, écoutez donc ce témoignage qui remonte au 22 novembre 1949, une émission de Jean-Marie Thi et Génie Alpha. Nous allons entendre ce témoignage d'un jeune Breton.
La radiodiffusion française présente l'almanach de l'Union française.
Aujourd'hui, novembre et le culte des morts. Au seuil des mauvais jours, voici que le peuple des villes et des villages de France se tourne avec une pieuse sollicitude vers ses morts. On les avait un peu négligés pendant la belle saison, mais vient la Toussaint. Comme le muguet est la fleur du mois de mai, le chrysanthème est la fleur de la Toussaint et du jour des morts. Car les morts ont en France leur jour de fête. Croyants et incroyants se rendent au cimetière.
Enfant, j'aimais la Toussaint. Le cimetière de mon village breton entoure l'église. Ce jour-là, on nous mettait nos habits du dimanche et, après le service des morts, ma sœur et moi, nous accompagnions mes parents au cimetière. L'avant-veille, armé d'un râteau et d'un arrosoir, j'étais venu faire la toilette de la tombe de mes grands-parents. Les autres villageois en avaient fait autant et le cimetière prenait un air tout neuf et presque gai malgré la pierre grise des croix. Ma mère pressait un peu le pas pour arriver la première sur la tombe des nôtres. Elle se signait, se dégantait et vite ôtait les quelques feuilles mortes qui s'étoilaient encore sur la dalle. Puis nous restions quelques minutes silencieux. Un jour de Toussaint, comme nous revenions du cimetière, ma mère, voyant ma sœur absorbée, lui demanda inquiète. « À quoi penses-tu ? » « Oh, à rien, maman. Je voudrais seulement que tu me dessines une âme. »
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Que tu me dessines une âme. On est là, Guillaume Cuchet, dans le prolongement de la dévotion du 19e siècle. On trouve dans ses publications diverses le mois du purgatoire, déjà, des comportements qui annoncent celui-ci.
Oui, on a là un écho de cette religion des morts du 19e siècle, qui est un long 19e siècle, qui s'est prolongé au moins jusqu'aux années 50, 60, et dont la mise en place au milieu du 19e coïncide avec la relance du purgatoire. Et d'une certaine façon, le purgatoire du 19e est un peu la version spécifiquement catholique de cette religion des morts qui concernait un peu tout le monde. C'est-à-dire que c'est une religion de croyants et d'incroyants et qui est peut-être la religion la plus unanime de la France du 19e siècle et un de ses ancrages anthropologiques, en tout cas les plus profonds, qui a duré pendant longtemps.
Alors, il y a beaucoup d'œuvres, de publications qui touchent au purgatoire. Par exemple, ce manuscrit du purgatoire de la sœur Marie de la Croix, qui évoque ses conversations avec une autre sœur qui a disparu et qui vient lui parler précisément du purgatoire. C'est ici Jean Prieur qui raconte cette histoire au micro du professeur Lesourd sur France Culture le 26 novembre 1972, manuscrit du purgatoire.
La défunte décrivait ce qu'elle nommait le purgatoire, c'est-à-dire un lieu d'attente et de purification, lieu spirituel, lieu état que le Nouveau Testament nomme Hadès, que certains spiritualistes appellent tout simplement le monde de l'arrivée. Il y a, dit Marie-Gabrielle, différents degrés dans le purgatoire. Ainsi, j'appelle grand purgatoire l'endroit où sont les âmes les plus coupables, où je suis resté 2 ans sans pouvoir donner aucun signe de mes tourments. Les grands pécheurs et ceux qui sont restés presque toute leur vie éloignés de Dieu par indifférence, ainsi que les religieuses qui ne sont pas ce qu'elles devraient être, sont dans un grand purgatoire. Et là, les prières qu'on fait pour ces âmes ne leur sont point appliquées. Elles ont été indifférentes pendant leur vie pour Dieu. À son tour, il est indifférent pour elles et il les laisse dans une espèce d'abandon, afin qu'elles réparent ainsi leur vie qui a été nulle. Dans le deuxième purgatoire, qui est toujours le purgatoire, mais pourtant différent du premier, on souffre beaucoup aussi, mais moins que dans le premier. Enfin, il y a un troisième endroit, qui est le purgatoire de désir, qu'on appelle parvis. Bien peu de personnes l'évitent. Il n'y a pas de feu. Là sont les âmes qui n'ont pas assez désiré le ciel, qui n'ont pas assez aimé Dieu. J'y suis en ce moment. Et dans ces trois purgatoires, il y a encore bien des degrés. Au fur et à mesure qu'une âme se purifie, elle ne souffre plus les mêmes tourments. Tout est proportionné aux fautes qu'elle a à expier.
Et après ça, on entre dans le ciel.
Oui.
En somme, à en croire sœur Marie-Gabrielle, les choses se compliquent. Il y a plusieurs sous-purgatoires, comme déjà chez Dante d'ailleurs.
Oui, il y a à la fois des indications très précises sur le temps et le lieu. Bon, ça s'inscrit dans toute une tradition très ancienne, mais là, c'est des récits du 19e siècle. C'est ce que les théologiens appellent des révélations privées, qui viennent compenser les lacunes de la documentation officielle sur le sujet, qui les laissent sceptiques pour une partie d'entre eux. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit effectivement, je disais tout à l'heure, il y a un purgatoire carcéral et un purgatoire mystique, mais là, c'est une combinaison des deux. C'est-à-dire que on démarre par du carcéral et du pénal sévère. Et puis, à mesure qu'on se purifie et qu'on s'éthérise, on finit dans un purgatoire mystique, finalement, et c'est là où est la sœur Marie-Gabrielle, qui est en train de terminer, manifestement, sa détention, et qui, pour une raison qui est un peu mystérieuse, sur laquelle s'interrogent les personnes pieuses au XIXe siècle, c'est pourquoi est-ce que Dieu permet à certains morts de revenir sur Terre pour faire des révélations sur ce qui se passe au purgatoire, parce que c'est sur permission que ces défunts sortent exceptionnellement du purgatoire. Ce qui rappelle d'ailleurs un peu le parallèle avec l'histoire médiévale, c'est que Jean-Claude Schmitt notamment avait montré qu'une des raisons pour laquelle le purgatoire avait séduit les populations, c'est que ces populations étaient habitées par une peur des morts et qu'un des soucis des populations médiévales notamment était d'enfermer les morts dans l'au-delà et de les empêcher de revenir. Et que le purgatoire, c'était un bon moyen en quelque sorte d'être sûr que Dieu ferme les portes de l'au-delà derrière eux et ne les laisse sortir que sur permission, très temporairement, non pas pour menacer les vivants, mais pour leur faire des révélations théologiques sur ce qui s'y passait.
Alors, deux questions continuent de se poser au cœur de ce 19e siècle, si favorable au purgatoire. C'est la question de la durée du séjour et la question du lieu à nouveau. Combien de temps reste-t-on au purgatoire? Je vois une publication qui s'appelle Le Purgatoire, Paris 1888, qui explique après des calculs assez compliqués que si on suppose qu'en moyenne chaque faute exige 1 heure de purgatoire, une mesure très modérée, si nous en jugeons par les révélations des saints, aboutirait à un purgatoire de 30 000 heures. Or, ajoute ce texte, 30 000 heures, savez-vous combien elle représente d'années? 3 années, 3 mois et 15 jours. Ce serait donc la durée moyenne. Ça fait un peu sourire avec le recul.
Oui, alors cette littérature de dévotion, littérature populaire qui spéculait sur la durée, qui était un peu calée ou indexée aussi sur la durée des indulgences. Même si les théologiens savaient que la durée des indulgences n'était pas la durée du purgatoire, ou n'avait qu'un lien indirect, tout le monde, évidemment, faisait le lien mécaniquement entre des indulgences qui étaient libérées en jours, mois, années, et qui étaient censées vous délivrer des peines du purgatoire, et le temps du purgatoire lui-même. Alors, il y a aussi des tas de choses sur la question de savoir que 2 heures au purgatoire, du point de vue psychologique, ça a l'air de durer 2 ans. Donc la superposition des temporalités n'est pas parfaite. Le temps du purgatoire est un temps qui psychologiquement compte double ou triple et du coup ça perturbe un peu les calculs.
Quant au lieu, on revient assez largement au centre de la Terre avec l'idée que ce doit être dans un abîme terrestre que l'âme doit subir l'expiation de ses péchés. C'est un autre extrait d'une publication sur le purgatoire et l'octave des morts. Une publication de 1863 celle-là.
Oui, ce qui est amusant, c'est de voir que le fait que l'astronomie moderne du XVIe, XVIIe siècle a fait sauter un peu l'ensemble de cette cosmographie, mais le purgatoire, lui, la Terre a cessé d'être au centre du monde, mais le purgatoire, lui, est resté au centre de la Terre. Alors qu'au XIXe siècle, avec les progrès de l'astronomie, vous avez beaucoup de gens qui sont un peu sortis des cadres du catholicisme, qui se demandent où sont les morts et qui vont plutôt les mettre dans les espaces infinis qu'on est en train de découvrir. Et là, il y a une connexion qui se fait entre la nouvelle astronomie, celle du XIXe siècle, et tout un scénario. On imagine les âmes qui se promènent de planète en planète. Voilà. Alors que les traditions médiévales ont eu tendance à maintenir le purgatoire au centre de la Terre.
Alors on ne s'étonne pas tout à fait que dans cette atmosphère générale, une concurrence surgisse, en particulier à partir des États-Unis d'Amérique. Je parle du spiritisme qui vient un peu dans les mêmes eaux s'efforcer de séduire les âmes, de la même manière au fond que le néo-évangélisme aujourd'hui peut-être.
Oui, le spiritisme est né aux États-Unis, puis traverse l'Atlantique, on peut dater l'affaire jour par jour quasiment, hein, 1853, et puis ça donne lieu à un phénomène de mode extraordinaire.
En 3 ans, ça arrive en France, par l'Angleterre.
Et ça arrive par l'Angleterre et l'Allemagne. Et du coup, ça a beaucoup fait réfléchir le clergé, parce que le clergé s'est dit à la fois, il y a une demande dans ce domaine, les gens, la question du rapport aux morts est une question très vive pour les contemporains, et en même temps, nous avons dans notre tradition un spiritisme orthodoxe, en quelque sorte, où le moyen de communiquer avec les morts, de façon un peu différente, et là encore, de façon très délibérée, l'Église catholique va relancer, chronologiquement c'est exactement ça, hein, dit dans les années 1850, va relancer la pastorale du purgatoire, en partie pour occuper le terrain sur lequel prospère ce spiritisme d'origine nord-américaine, et qui a séduit très largement toute une partie de l'Europe.
C'est le temps où Victor Hugo fait tourner les tables dans son exil de Jersey ou de Guernesey.
Voilà, il n'a pas grand-chose d'autre à faire, donc il fait de la photographie, il écrit des contemplations, et il fait tourner les tables tous les soirs de 21h à 6h du matin.
C'est le temps où surgissent les fantômes, par exemple celui du manoir, qu'évoque plusieurs décennies plus tard Ray Ventura avec ses collégiens en 1939. Écoutez ce fantôme du manoir qui vit son purgatoire.
Dans un triste et vieux château d'Écosse, j'ai très bien vécu, puis je suis mort. Mais par malheur, la fée Carabosse, qui passait par là, va me jeter un sort. Depuis ce temps, comme une âme en peine, chaque nuit, je viens me promener. À travers les murs de mon domaine, je remue des chaînes lorsque je suis déchaîné. Je suis le fantôme du manoir, invisible au jour, mais tous les soirs. J'apparais en blanc sur un fond noir, et je me fais voir. Mais dans ce vieux château féodal, je ne pourrais vous faire aucun mal. Je suis dans l'infini sidéral, sur le plan astral.
J'ai le nez décharné et les yeux caverneux. Je suis un squelette. Sur mes côtes qui résonnent, on joue du xylophone des Castagnette.
Lorsque j'apparais à mes neveux, ils poussent des clameurs, s'arrachent les cheveux. Mais les pauvres, ils ne se doutent pas que j'ai bien plus peur qu'eux.
Lorsque l'on éteint les candélabres,
je me faufile derrière les paravents.
Car malgré son petit air macabre,
je l'avoue, je suis toujours un bon vivant. Parfois je me glisse dans l'alcôve où dort l'héritière du château.
Le baron s'effraie et puis se sauve.
Moi sans hésiter je prends sa place subito.
Il est le fantôme du manoir.
Mais bientôt du moins j'en ai l'espoir. Des petits fantômes vont m'échoir.
Vous pourrez les voir.
Je serais moins seul, c'est plus normal. Peut-être même aurais-je un rival.
Car la nuit, quand il est là tout seul, il s'ennuie dans son linceul.
Je maigris, je décline, je m'étiole, je me mine, j'ai mauvaise mine. Je veux égayer mon purgatoire en frappant des coups dans les armoires. Je veux passer les joues de la petite bonne, chatouiller les pieds de la baronne. Je suis le fantôme dont on parle tous les soirs
dans le vieux manoir.
Manoir, purgatoire, tous les soirs, la rime s'impose, Guillaume Cuchet. Dans l'ordre de la joyeuseté, on trouve néanmoins un reflet de ce qui a été l'ambiance de ce 19e siècle, non ?
Oui, il fait ce fantôme, fait son purgatoire sur Terre. Mais ça, c'est un cas qui est prévu de longue date. Ça arrive. Mais là, évidemment, ce qui est étonnant, c'est qu'on voit fusionner à la fois la littérature du 19e siècle, le spiritisme et le purgatoire et tout ça dans le même récit.
Alors, vous montrez bien dans vos travaux, notamment dans votre beau livre qui s'appelle Le crépuscule du purgatoire, Guillaume Cuchet, vous montrez bien que la guerre de 14-18, avec 900 morts par jour, va changer l'ambiance générale et en particulier ce qui touche à la notion de purgatoire de façon profonde et rétrospectivement assez aisée à comprendre.
Oui, au fond, on a le sentiment que les contemporains se sont dit que, on évoquait tout à l'heure ceux qui faisaient leur purgatoire sur Terre, bien que les poilus avaient fait le leur sur Terre de toute évidence, et que on le voit d'ailleurs dans la prédication d'époque où on ne cesse pas de dire que Jésus vient chercher dans les tranchées les poilus morts pour les emmener en droiture au paradis sans passer par la case purgatoire. Et là, vous avez 1,3 million ou 1,5 million de personnes qui font l'économie du passage par le purgatoire et ça aura des conséquences à moyen et à long terme. Et peut-être que l'autre point important, c'est que alors qu'au XIXe siècle, on s'est énormément préoccupé des âmes du purgatoire dans le monde catholique, on a beaucoup prié pour le collectif douloureux des âmes du purgatoire, les morts de la guerre, les poilus de la guerre, vont prendre un peu la place, je dirais, dans les préoccupations sentimentales des contemporains, de ce collectif des âmes du purgatoire, y compris d'ailleurs physiquement, puisque on va souvent dans les paroisses, dans les églises, installer les plaques commémoratives des défunts de la guerre dans les anciennes chapelles des âmes du purgatoire. Mais il est bien évident que là, ce processus de substitution, en quelque sorte, d'un groupe à un autre, est très manifeste.
On peut aller le constater à Saint-Eustache, à Paris, par exemple.
Oui, Saint-Eustache est un bon exemple. Alors, il est évident que...
Les morts sont inscrits en dessous de l'évocation antérieure, effectivement, du purgatoire, des voilà. Âmes du purgatoire.
Et en même temps, tout le monde sent bien que ce que les morts en question ne sont pas au purgatoire, précisément. Ils sont dans la chapelle des âmes du purgatoire, mais eux sont en paradis. Et donc là, il y a vraiment la substitution des deux.
Plus le renversement des générations, puisque les jeunes partent avant les vieux, ce qui n'est pas sans importance du point de vue qui nous occupe.
Oui, il y a vraiment une sorte d'évidence collective que ces défunts ont fait l'économie du purgatoire. On le voit d'ailleurs aussi dans les églises de la Reconstruction, là où elles ont été détruites, dans le Nord, par exemple, on a des vitraux assez nombreux. On voit Jésus qui descend en personne dans les tranchées et qui vient chercher les poilus. Donc, il n'est plus question de purgatoire dans ce contexte-là.
Je trouve que cette lettre que je vais vous faire entendre d'une femme de poilu mort à la guerre est assez topique à cet égard. Elle est lue par Lélie Anvard dans Les Racines du Ciel, à nouveau sur France Culture le 1er février 2015.
Je vous adresse un mandat pour une neuvaine de messe pour mon regretté mari mort pour la France, Amboise d'Again. Car désormais, moi, avant qui priais avec tant de confiance pour que la Sainte Vierge protège mon mari et le rende à ses chers enfants, n'ayant pas été exaucée, je suis complètement bouleversée, d'autant que c'est le mois de Marie que mon pauvre mari a été tué. Et moi qui étais si confiante que maintenant je voudrais que la Sainte Vierge demande à Dieu de me prendre avec mes deux enfants. Puisqu'elle n'a pas voulu nous réunir sur la terre, qu'elle veuille bien nous réunir tous les quatre au ciel, car la vie est désormais pour moi un trop lourd fardeau. Il m'est absolument impossible de croire que si Dieu si bon m'ait ainsi flagellé, la seule chose que je demandais à Dieu de bien vouloir m'épargner, je me permets de vous recommander mes deux pauvres enfants qui jamais ne connaîtront la vie de famille que mon mari et moi avions tant souhaité.
Ce texte peut parler d'une sensibilité générale, non, Guillaume Cuchet ?
Oui, c'est un texte que j'ai trouvé dans les archives du sanctuaire Notre-Dame de Montlijon, où quand je suis arrivé à la période de la guerre de 14-18, alors là c'est vraiment le grand malheur de la guerre, puisqu'on a affaire à des gens qui demandent des messes pour leurs défunts et qui sont généralement très perturbés par ce qui s'est passé. Donc c'est un texte très, très émouvant et très, très saisissant, et qui illustre bien cette déstabilisation globale d'une certaine culture théologique et spirituelle dans le contexte de la mort de masse de 14-18.
Alors finissons par ce qu'on peut appeler l'effacement du purgatoire au cours du second XXe siècle. Le concile de Vatican II a des choses à nous dire à cet égard. C'est la manière dont on a traité cette question du purgatoire, ou plutôt on ne l'a pas traité, purgatoire et indulgence. On en a très peu parlé, non ?
Oui, très peu, mais c'est vraiment un peu le point final de cette histoire. C'est-à-dire que le concile parle ne parle pas très peu des fins dernières et ni du purgatoire, mais il y a simplement un moment, à la toute fin du Concile, en 1965, dans la dernière session, où il y a eu un débat sur les indulgences. Un débat conciliaire sur les indulgences.
Sous le regard des observateurs protestants ?
Dans les observateurs protestants, dans l'Assemblée, assistant au débat. Et à ce moment-là, c'était un peu une imprudence de Paul VI qui avait soumis ce dossier au père conciliaire. Et on a vu les évêques français et allemands très vindicatifs sur le terrain du purgatoire et demandant plus ou moins qu'on évacue et indulgence et purgatoire. Alors Paul VI, prudemment, a retiré la question de la discussion et va faire le point sur la question des indulgences en 1967. Mais au fond, on peut considérer qu'après le Concile, sans que ça coïncide avec une consigne expresse ni du pape ni du Concile, cette question des fins dernières traditionnelles, cette vision traditionnelle de l'au-delà, va passer complètement au second plan. Ça disparaît pas, parce que ce qui est de l'ordre du dogme continue d'être dans les catéchismes, mais on cesse d'en parler. On met un peu au frigidaire, en quelque sorte, toute une série de vérités anciennes qui sont devenues un peu grinçantes et inaudibles. Et à ce moment-là, le catholicisme se reconfigure dans sa pastorale ordinaire, et commence à tenir un discours très différent sur l'au-delà. Donc l'effacement du purgatoire ne date pas du pape François, il date du Concile Vatican II. Et d'une certaine façon, déjà après la Seconde Guerre mondiale, dans les milieux avancés du catholicisme français, ce genre de questions étaient passées au second plan.
C'est le temps aussi, on note que c'est le temps aussi où les limbes disparaissent complètement.
Oui, les limbes ont disparu du catéchisme de Jean-Paul II de 1992, ça a fait l'objet d'une discussion dans les années 80. Les limbes n'étant pas considérées comme un dogme de l'Église catholique, mais une hypothèse théologique.
Rappelez-nous ce que sont les limbes.
Et donc les limbes dans lesquelles on était censé trouver les enfants morts sans baptême, qui avait évidemment moins d'utilité quand on a un taux de mortalité infantile à 4 ou 5 pour 1000, le problème devient très marginal. Mais au-delà même de la question démographique, dans les années 80, le Joseph Ratzinger, qui à l'époque s'occupait des questions doctrinales dans l'Église, avait expliqué que c'était une hypothèse théologique et qu'on pouvait s'en débarrasser. Et de fait,
quand il est devenu pape, alors, sous le nom de Benoît XVI,
il l'a pas remis en selle, mais dans le catéchisme de l'Église catholique de 1992, il n'est plus question des limbes, alors qu'il est question du purgatoire, qui est un dogme qui a sa case, en quelque sorte, dans le système doctrinal. Et qui ne risque pas, je vais rassurer les traditionalistes sur ce terrain-là, qui à mon avis, qui ne risque pas d'en sortir.
Eh bien voilà pour eux, en effet, un message ultime qui sera reçu comme ils le méritent. Guillaume Cuchet, merci d'être venu à ce micro. Vous avez publié un livre important qui s'appelle « Le crépuscule du purgatoire », paru chez Armand Collin en 2005, qui fait écho à la naissance du purgatoire de Jacques Le Goff, qui est paru, lui, chez Gallimard en 1981. Vous avez dirigé un livre qui s'appelle « Le purgatoire, fortune historique et historiographique d'un dogme », paru à l'École des hautes études en sciences sociales en 2012, un livre collectif. Jérôme Bachet, élève de Jacques Le Goff, a donné un ouvrage qui s'appelle « Corps et âme, une histoire de la personne au Moyen-Âge », paru chez Flammarion en 2016, où il est largement question du purgatoire et de son histoire. Et puis, vous suscitez notre curiosité en nous annonçant que vous allez, en février 2018, faire paraître un ouvrage qui va s'intituler « Comment notre monde a cessé d'être chrétien, anatomie d'un effondrement, parution au seuil ». Merci beaucoup. Vous trouverez, mes chers auditeurs, une bibliographie plus complète sur notre site avec les références des documents sonores que je vous ai fait entendre. Et vous pourrez bien sûr écouter, réécouter et podcaster cette émission. La semaine prochaine, nous descendrons vers le sud de l'Afrique, l'Afrique du Sud, et le long espoir d'une unité. Vous savez que ce pays est actuellement déchiré par de grandes turbulences politiques. Bonne occasion de les replacer dans le long terme. Et je recevrai, pour en parler, François-Xavier Fauvel. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée avec le précieux concours de Jeanne Guéroux, avec aussi Nathalie Lempereur, une émission réalisée par Anne Kobilac, avec Nicolas Delmas à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Annie Lozana. Et dans quelques instants, nous allons retrouver, vous allez retrouver Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.